Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Ça faisait longtemps qu'on ne lui avait pas parlé. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Bon, les conditions d'enseignement ridicules dénoncées par les syndicats. J'avais envie de vous parler parce que, écoutez, on nous répète quand même depuis quelques points de presse là à la veille du retour à l'école, et on continue de taper sur ce pion-là que c'est sécuritaire, les écoles, que c'est complètement safe en bon français. Pourtant, quand je parle à des profs, moi, c'est pas ça que je ressens, c'est pas ça qu'ils disent. Là, les profs ne se sentent pas en sécurité. Est-ce que je me trompe?
Effectivement, c'est le sentiment qui est pas mal généralisé là chez les profs actuellement. Donc, la réouverture des écoles, techniquement, on n'a pas de problème avec ça. Mm-hmm. Sauf que là, ça s'accompagnait non seulement d'allègement de certaines mesures sanitaires, mais en plus avec une absence, je veux dire, de plan pédagogique, parce que ce qu'on nous propose comme plan de contingence est assez ridicule à certains égards.
Oui, puis c'est quand même. Puis moi, je me rappelais ça ce matin, non pas sans ironie, tu sais. C'est fou comme j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une banalisation. Tu sais, on 3000 cas, une cinquantaine de décès, beaucoup de gens hospitalisés, et quand même, on va de l'avant alors que l'hiver passé, puis je comprends qu'on n'était pas dans la même situation vaccinale, mais tout était fermé pour beaucoup moins que ça. Tu sais, je comprends les gens de trouver que c'était peurant, la situation en ce moment, tu sais, de devoir aller travailler dans ces conditions-là.
Ben tout à fait. Puis si on écoute une conférence de presse d'une à l'autre, des fois aussi on n'a pas le même sentiment. Hein? Quand c'était l'annonce de la réouverture des écoles, on voyait la lumière au bout du tunnel, tout allait bien.
Oui, mais là on est au bout. On est au bout du tunnel, Madame Beauvais-Saint-Pierre. Il l'a dit, François Legault hier. Le tunnel est fini. Là, c'est le train de la santé qui déraille.
Voilà. Ben c'est pas le sentiment qu'on a actuellement. Oui. Puis en fait, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de mesures. Encore une fois, le problème, c'est qu'il y a des mesures qui pourraient être prises pour que les profs travaillent dans des conditions plus sécuritaires. Je dis les profs, mais c'est les élèves aussi, en fait. Donc, tu sais, actuellement, bon, si on regarde juste les masques, on fournit des masques niveau 1 dans nos écoles, ce qui sont les masques de base. Nous, au bureau, on a des niveaux 3, là. Les N95 sont pas disponibles pour non seulement pas pour tous les profs, mais ils sont supposés être disponibles dans les écoles spécialisées. Ils ne sont pas encore arrivés.
Moi, j'ai pas compris ce bout-là, Madame Beauvais. Excusez-moi, là, je vais pas vous interrompre, mais
non,
moi, ma compréhension des choses, là, c'était que les profs qui allaient vouloir porter des N95 allaient pouvoir le demander et en auraient. Non?
Non. En fait, ils peuvent en apporter de la maison. Donc, au départ, le premier combat a été que les profs puissent en apporter. Donc, il y en a qui nous disaient, moi, j'en ai, j'ai accès à des N95, je veux porter ça. Puis, au départ, on nous disait, non, ils ne pourront pas en apporter de la maison. Là, on n'en est pas du tout à les fournir. Donc, nous, on demande qu'ils soient fournis. On le sait que c'est pas l'idéal dans toutes les situations. On n'enseigne pas devant 30 élèves avec un N95. Ça, on en est bien conscient. Mm-hmm. Sauf que, j'espère que le ministère de l'Éducation est conscient qu'il y a beaucoup de moments dans notre travail de prof qui nécessitent une proximité. Dans ces moments-là, ça serait tout à fait pertinent là, d'en avoir un.
Oui, mais pourtant, vous n'en avez pas besoin, là. Vous avez, tu sais, des détecteurs de CO2. C'est cool parce que maintenant, vous pouvez savoir que vous êtes en danger grâce à ces lecteurs-là. Avant, vous ne le saviez pas. On progresse.
Exactement. Ben c'est ça. Ça aussi, ça c'est l'autre. C'est un combat qui j'espère va se finir un jour. Mm. Mais pour l'instant, bon, on a la FAE entre autres qui travaille vraiment fort là dans le dossier de la ventilation. Mais actuellement, ben c'est ça aussi, c'est qu'on a déjà. Ben encore, on a beaucoup d'écoles qui n'ont pas les lecteurs CO2. Ça faudrait le mentionner aussi. Celles qui en ont, il y en a beaucoup qui viennent de les recevoir donc dans la semaine dernière ou juste avant la rentrée. Et là, ensuite, ben, une fois que tu as la lecture, c'est bien beau, mais il faut régler le problème. Et ça, c'est l'autre problème.
Vous voyez ce qui se passe ensuite, comme on dit sur les clics, les sites de clickbait. Là, il ne se passe rien.
Puis actuellement, le plan, ben il y a d'une part, on nous dit on peut installer des échangeurs d'air. Je dis on peut parce que de l'information qu'on a, c'est quelque chose qui est possible dans les locaux et dans les écoles où il y a déjà de la ventilation mécanique. Bon, on a plein d'écoles où il n'y a pas de ventilation mécanique. Dans ces cas-là, c'est assez nébuleux ce qu'on peut faire pour régler les problèmes de ventilation. Et la solution à tout ça, donc les profs ont reçu un plan, là, qu'est-ce qu'on fait quand nos taux sont trop élevés? Ben, à toutes les étapes, c'est ouvrir les fenêtres plus souvent, ouvrir les fenêtres plus grandes. Puis ben ensuite, on a le ministre qui nous dit, ouais, attention, ayez du jugement, par exemple, s'il fait froid, faut pas trop les ouvrir.
Aujourd'hui, il fait -22 à Montréal. Ce matin, il faisait -26.
Puis actuellement, c'est un combat qu'on mène dans le cadre de la COVID. Mais entendons-nous que si on a des classes où il y a des qui tapent des 3500 ppm, pardon, dans la journée.
Mais c'est quoi la mesure qui est acceptable, mettons, pour qu'on puisse se situer, là?
Ce qu'on nous dit, c'est que ce serait en bas de 1000.
Okay.
Donc, en bas de 1000,
puis on a des classes à 3000. On a des classes à 3000.
Oui, ben encore une fois, ce qu'on nous dit, ce que le ministre nous dit dans les conférences de presse, c'est oui, mais faut pas prendre ça à seulement un moment dans la journée, il faut faire une moyenne.
Faut le faire la nuit aussi pour être sûr d'avoir une bonne moyenne.
Et voilà, puis il faut vraiment prendre les mesures quand il y a personne dans la classe. Donc le problème, c'est que peu importe, c'est pendant combien de temps, si quand les fenêtres sont fermées, on arrive à des taux élevés, ben il y a un problème.
Ah ouais.
Et si la seule solution, c'est d'ouvrir les fenêtres, on a aussi un problème parce qu'on vit au Québec et qu'on a des hivers.
Mais madame Beauvais-Saint-Pierre, je vous trouve de mauvaise foi. Être prof, c'est une vocation. Hein?
Oui, tout à fait. Oui, faut vouloir risquer sa vie pour aller travailler.
Exactement.
Mais c'est un peu ça.
Franchement.
C'est ça le sentiment que beaucoup de profs actuellement, c'est d'avoir l'impression de se faire un peu lancer dans la gueule du loup, mais surtout sans les outils pour être capable d'affronter ce qu'ils ont à affronter actuellement. Oui. Puis les inquiétudes sont là et sont quand même légitimes si on regarde justement le contexte. Effectivement, comme vous disiez, les cas qu'on connaît, on parle encore des cas donc qui ont de gens qui ont passé des tests PCR aussi. Là, il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas.
Parce qu'on teste de moins en moins dans la communauté. Puis c'est vrai que ça en est presque insultant à un moment donné. Puis vous parliez tantôt du relâchement des mesures sanitaires, la confusion autour de la période d'isolement. Là on revient au bout de 5 jours. L'élève qui revient après ça, il y a un test négatif, doit quand même essayer d'avoir une distanciation pendant 5 jours. C'est un peu ridicule, là. C'est un peu du n'importe quoi, là. Il y a des experts au Canada qui nous disent que les tests sont positifs aussi loin que 10 jours après une infection avec Omicron. C'est ça.
Moi, je ne peux pas croire qu'on retrouve encore dans les documents ministériels la mention de distanciation dans le contexte dans lequel on sait qu'on travaille.
Ouais.
Entre autres, bon, des profs s'inquiétaient. On a fait une assemblée générale. On entendait les profs qui nous disaient, mais par exemple à la cafétéria, les élèves qui reviennent justement d'un isolement, là, ils vont manger dans la cafétéria avec les autres où la distanciation, on le sait, est pas possible. Là, ils vont enlever leur masque. Donc, beaucoup de scénarios un peu cauchemardesques là, autour de ça. De se dire, les mesures qu'on est supposé prendre au retour d'un élève sont difficilement applicables. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce plan-là qui, pour nous, ne tiennent pas la route.
Il y a ça. Il y a le fait que ça ne tient pas la route, mais il y a la stigmatisation de cet élève-là aussi. Moi, j'ai envie qu'on parle de ça parce que au primaire, au secondaire, là, c'était la chasse. En tout cas, je voyais ça à l'école de mes enfants. C'est qui a la COVID? Qui l'a donné à qui? C'est lui qui va nous le donner? C'est normal, ce sont des enfants.
Tout à fait. Il y a aussi ça qui est effectivement un élément. Puis ça aussi, ça a été soulevé par beaucoup de profs, cette espèce de malaise-là, de dire, bon, techniquement, il faudrait qu'on éloigne cet élève-là.
Josiane est dans le corridor là, pour la semaine.
Exactement. On va pas le mettre dans le fond de la classe à regarder le coin du mur pour l'isoler. Donc, il y a ça aussi qui est non seulement difficilement applicable au niveau de l'espace, mais au niveau aussi, je dirais, de l'éthique. Là. Donc, il y a bien des éléments encore, bref, dans le plan qui pour nous, tiennent pas la route au niveau de la santé.
Ouais.
Si on regarde au niveau pédagogique, mais encore une fois, il y a d'autres affaires qui tiennent pas la route pour nous aussi.
Oui, ben je veux qu'on parle du pourcentage des élèves absents là, versus les classes en présentiel et les classes en virtuel. Vous avez envoyé une lettre le mardi, donc hier, au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il y avait plein de points qui étaient abordés dans cette lettre-là, dont celui-ci. La règle ministérielle en ce moment, là, c'est qu'une classe peut basculer en enseignement à distance si 60% des élèves du groupe sont en isolement à la maison à cause de la COVID. Vous, ce que vous demandez, c'est que Québec revoie à la baisse ce pourcentage-là.
Bien, tout à fait. Parce que là, actuellement, en fait, on va se retrouver dans des milieux où on peut avoir plus de la moitié de la classe qui est absente, donc qui est à la maison. Un prof qui va enseigner à une minorité de ses élèves. Qu'est-ce qui va arriver dans ces cas-là? Le prof enseignera pas des nouvelles notions, avancera pas son programme. Donc, on va tomber dans des situations où ça va ressembler beaucoup à de l'occupationnel. Puis,
mais c'est déjà ça un peu. Pour vrai, moi, j'ai l'impression d'aller parquer mes enfants à l'école certaines journées, là.
Ben c'est le sentiment que les profs ont, puis en fait, si c'est ça l'intention, ben ça aurait peut-être été intéressant au moins d'être honnête et de nous dire on veut ouvrir les écoles à tout prix pour la santé mentale, mais on est bien conscient qu'au niveau pédagogique, les profs pourront pas avancer. Parce qu'actuellement, on nous expose un plan comme ça, mais d'un autre côté, on a encore des examens du ministère prévus à la fin de l'année, comme si rien n'était.
Oui, un bulletin, 11 février.
Exactement, tout est supposé avancer normalement, alors que rien ne nous dit qu'on va être capable d'avancer normalement. Okay. Donc, c'est une situation qui vraiment, pour pour nous est pas ni l'idéal pour les élèves, ni pour les profs. Et disons qu'on n'a pas la même notion non plus de bris de service là que le ministre.
Non, c'est ça. Puis là, je ferai pas mon CV, là, Madame Beauvais-Saint-Pierre, comme bien des parents. Il me reste deux petites questions là, rapidement, justement, là, sur ce pourcentage-là, les classes virtuelles, les enseignants là, qui enseignent à la fois en présentiel et en virtuel, c'est impossible que rien se perde dans le rendu et l'apprentissage. Là. Moi, ce bout-là, je le comprends pas.
Ben en fait, actuellement, à Montréal, nous, ce qu'on vit, c'est le prof qui pourrait être en isolement et qui enseigne à ses élèves dans la classe. Donc, toute la classe est à l'école.
Ouais.
Ben, toute la classe, sauf les élèves qui seraient en isolement.
Ouais.
Et le prof, lui, est à la maison.
C'est ça, mais c'est un double. C'est comme un double enseignement. Ça marche comment, ça?
C'est un modèle qui est clairement pas l'idéal, qui peut-être peut fonctionner moyennement avec des élèves plus âgés, par exemple. Mais si on prend une classe de première année, par exemple, on nous disait que l'enseignement virtuel, donc tout le monde à la maison, n'était pas l'idéal. Entendons-nous, ça non plus, c'est pas l'idéal du tout pour accompagner des élèves.
Mais non, il n'y a rien qui est idéal là-dedans. Ma dernière question, c'est la question pas fine, je l'appelle comme ça. C'est parce qu'il y a bien des parents qui se la posent, puis moi-même, je me faisais la réflexion. T'sais, on a tellement manqué d'école depuis 2 ans. On a eu le congé de Noël qui s'est étiré. Il y a des cas dans la classe qui font que des enfants sont souvent absents. Les journées pédagogiques, là. OK. Moi, la semaine passée, là, il y en avait 3 différentes dans la même semaine. Mes enfants vont dans 3 écoles différentes. Tu sais, pourquoi c'est pas toujours le même jour dans les mêmes commissions scolaires, premièrement? Puis pourquoi c'est nécessaire de garder des journées pédagogiques alors que nos enfants, justement, manquent de journées d'école? Là, c'est rendu qu'ils vont finir le 23 juin ou le 22, là, pour reprendre la journée tempête. Fait qu'il y a bien, des parents, là, qui se questionnent.
Ben là, la première question est vraiment très technique. Là, c'est des ententes, donc on doit prendre des décisions. Les directions d'établissement choisissent certaines dates, le centre de service, donc est un peu plate cette réponse-là, je dirais.
Non, mais parlez-vous, mais mettez-vous tout le même jour, ce serait tellement moins compliqué. Non?
En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui est par rapport aux dates souvent de bulletins, aux dates d'activité en lien avec l'école. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine, que ça peut changer d'un milieu à l'autre. Mm-hmm. Au niveau des journées pédagogiques, sont-elles essentielles? Elles sont ultra essentielles pour les profs.
Expliquez-nous pourquoi, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que les profs se pognent le beigne pendant les journées pédagogiques.
Je suis bien contente de pouvoir expliquer ça.
Allez-y.
En fait, je vous dirais que comme prof, mes journées pédagogiques, je passais pas mal plus d'heures dans ma journée pédagogique à l'école que dans mes journées régulières, souvent parce que je me faisais une liste d'à peu près 42 points de choses à faire. C'est la journée où on peut non seulement planifier, corriger, se concerter avec nos collègues, rencontrer la psychoéducatrice, l'orthopédagogue, donc parler de certains élèves. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on fait. Mais il y a l'autre chose qui peut-être peut sembler ridicule, mais c'est faire le ménage de sa classe, placer sa classe, organiser certaines choses physiquement.
Donc vous en avez encore plus besoin que d'habitude, journée pédagogique.
Ben tout à fait. Puis en fait, depuis le retour en classe, pas juste cette année, la tâche s'est alourdie chez les profs. Donc au niveau de la planification, puis si on regarde, justement, on parlait du fameux 60%, mais si on a 60% des élèves à la maison, ça veut dire envoyer du travail à 60% de ses élèves et il y a du travail à faire après l'école. Quand t'as fini d'enseigner à ton 40%, il te reste des choses à faire. Donc ces journées-là sont vraiment essentielles.
Ben vous voyez, c'est très très éclairant. Merci Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal. On parlait des conditions d'enseignement qui sont jugées ridicules par pas mal de profs et 2 syndicats.